Bonjour. En cette période de rentrée, je vous propose un bonus exceptionnel. Après le magnifique échange avec Nicolas Pagnol et l'émouvante conversation avec Victor Jabouille, j'ai rencontré pour vous Daniel Picouli, qui entretient un rapport singulier avec les automobiles. Il les aime, c'est certain. Trop peut-être. Vous le saurez en l'écoutant vous en parler. Nous sommes entourés de cigales sous le chaud soleil de Provence, mais Daniel Picouli va vous emmener loin, très loin. Bonne écoute.
Oui, bonjour pour cet épisode de bonus de transmission. Je considère qu'on reconnaît les amateurs d'automobiles à leur capacité à les reconnaître au premier regard. Et c'est devant une Volvo qui n'avait pourtant aucun signe distinctif. La marque n'était pas dessus, il n'y avait pas de logo, il n'y avait rien sur les roues, le modèle n'était pas indiqué. Tu m'as dit, tu as vu la Volvo là-bas? Et je te dis, la 1800? Et tu m'as dit, oui, c'est celle-là. Bonjour Daniel Picouli.
Bonjour.
Il n'a pas fallu longtemps dans notre première conversation pour que tu me dises une chose qui m'a vraiment étonné de la part de quelqu'un qui semblait connaître et apprécier les voitures. Tu n'as pas le permis de conduire.
Non, je n'ai pas le permis de conduire et c'est pas une coquetterie, c'est plutôt un instinct de survie. C'est-à-dire que je suis un gars qui a vécu ses 18 ans, à l'époque c'était ça, je l'ai pas permis, qui a vécu ses 18 ans dans les cités, du côté d'Orly. Et les voitures servaient surtout à faire des conneries. C'est-à-dire qu'on conduisait des voitures sans avoir le permis, ce qui est le permis étant une sorte de, d'embarras qu'on nous obligeait à passer, surtout à prendre le code. Et donc on conduisait, on empruntait les voitures, des parents. Moi j'avais des parents, j'avais un père par exemple qui était très libre. Et il a prêté sa voiture, il a prêté une voiture neuve à mes sœurs, à moi. Enfin bon, ben, donc. Mais il y avait aussi de ces voitures que l'on empruntait qui étaient à personne. Enfin, qui étaient à personne. C'est un terme.
Qui n'avait pas été prêté.
Voilà, c'est un terme technique désignant des actes à caractère frauduleux, dirait monsieur. Monsieur l'agent. Donc là j'ai pu m'apercevoir que j'aurais peut-être fait des bêtises. Bon, voilà. Et donc j'ai décidé de ne pas passer le permis dans sa forme complète et de rester un gars qui n'a pas le permis, ce qui, avec le temps, en fait une singularité. Voilà, donc c'est en fait. Si j'avais été snob, je me serais dit je n'ai pas le permis parce que tout le monde a le permis. Non, c'est pas ça. Je me suis aperçu que ça étonne toujours que je n'ai pas le permis, compte tenu de mes origines. Et encore pire quand je raconte que mon père était chaudronnier et carrossier. Et des carrossiers automobiles, c'est-à-dire que mon père a passé. J'ai vu, moi, plus de voitures pliées en accordéon. Que de voitures neuves quand j'étais, puisque lui il récupérait des voitures qui avaient été pour le moins cabossées, il les décabossait et les revendait. Il a d'ailleurs, je crains bien de tenir ça de ma mère, il avait refait complètement une superbe Simca 5. J'adore cette voiture à l'époque. La Simca 5, c'est une voiture fille, un peu femme, et il avait voulu retaper cette voiture pour ma mère, ce qui aurait fait de ma mère, de ces jeunes femmes ayant une Simca 5, bon, donc la classe, à l'italienne. Bon. Il a donc retapé cette voiture et il a emmené ma mère, on habitait Villemomble à l'époque, faire un tour pour lui montrer un peu comment elle fonctionnait et tout ça. Et ma mère s'est retrouvée dans le champ, de personnes que j'ai écoutées, parce qu'elle est
première sortie, premier accident.
Ah oui, elle était incroyable. Ma mère, elle était d'abord très étourdie, très rigolote, très casse-cou, en fin de compte. Donc elle s'est retrouvée en contrebas. Et là, mon père a dit stop, et il a revendu la Simca 5. Et d'ailleurs, des années après, ma mère nous a fait une frayeur terrible, c'est que à cette époque-là, elle habitait seule à la campagne, mon père était décédé, et elle nous a appelé au téléphone pour nous dire qu'elle allait acheter une voiture sans permis. Alors là, il y a eu une mobilisation générale dans ma famille. Je suis 11e d'une famille de 13, quand il y a mobilisation, il y a du monde. Et là, on a interdit, écoute maman, tu veux prendre l'auto, tu nous dis, on prend un taxi, on appelle, mais surtout tu ne conduis pas. parce qu'on l'a trouvé à plusieurs reprises de l'autre côté de la chaussée. Donc, bon, voilà. Enfin bref, dans la famille, il y a, et je l'assume, du côté de ma mère, une incapacité absolue à rester sur la route. Donc voilà, donc il valait mieux que... Donc j'ai d'un côté un père carrossier qui vous fait un chef-d'œuvre avec une voiture pliée dans tous les sens et une mère complètement réfractaire à ce que c'est que la route, cette espèce d'embarras sur lequel il faut rester normalement. Ben, c'était pas son, c'était pas son idée. Donc moi j'ai vécu gamin donc, avec ce père qui réparait des voitures tout le temps. Et qui réparait aussi les voitures. On a eu une Talbot, alors une Talbot incroyable, parce que comme on était beaucoup, il fallait une voiture vaste sur laquelle on pouvait. Et j'ai cherché à retrouver ces Talbots, parce qu'il y a tout un catalogue Talbot. Mm-hmm. J'y arrivais pas, j'ai montré ça à un spécialiste, il dit oui, d'accord, ça c'est une Talbot, mais ton père l'a entre guillemets rénové avec des ailes de 203, donc tu la retrouveras pas dans le catalogue. Donc il était comme ça, c'était un transformateur, et d'ailleurs, on a toujours rêvé qu'il fasse avec une traction ou un cabriolet. Parce que là, c'était super chic, le cabriolet traction. Donc, on a eu des voitures comme ça. La traction a été une voiture extrêmement importante. D'ailleurs, je peux dire que je n'ai pas le permis, mais j'ai une traction. Elle est dans un garage, là-bas, du côté de Romorantin, Lantenay. Parce qu'un jour, je suis passé, c'était à Stalingrad, je me souviens très bien, devant un garage où le gars avait... mis une traction devant avec marqué à vendre. C'était exactement la 11BL de mon père avec la roue à l'arrière, surtout pas la malle. Je vais voir le gars, je lui dis combien vaut, il me dit un prix, je dis je l'achète. Bon, j'avais les moyens de le faire et donc je l'achète. Et il dit bon, on va quand même aller faire un tour, vous voulez prendre le volant? Je dis non, allez-y, montre-moi. Bien évidemment, quand même, j'étais honnête. Et on va faire un tour comme ça dans Paris, côté Stalingrad, Jaurès. Voilà, bon, voilà, j'étais très content. Et le gars, quand même, qui était un petit peu surpris, hein, au moment où on s'arrête, il descend, il fait, quand même, il faut que vous l'essayiez. Et c'est là que je l'ai effondré, parce que ben oui, non, je peux pas, parce que j'ai pas le permis. Et donc, j'ai acheté une voiture, une traction sans permis. J'ai appelé un beau-frère qui est venu la chercher. Je suis rentré à la cité royalement. La cité à Dorly, avec cette superbe traction que j'ai garée en face de chez moi à l'époque, là, rue Sardou, et je la garais, donc je ne l'utilisais pas, et les mômes s'en servaient comme toboggan. J'avais les ailes de traction, vous ne le savez pas, mais quand vous êtes tout petit, ça fait un toboggan. Donc il y avait cette traction, et quand on était gosse, c'est vrai que la voiture était quelque chose... normal, c'est-à-dire tout le monde avait une voiture. Je me rappelle de la première 4 chevaux d'un beau-frère, je me rappelle de toutes ces voitures que l'on a eues. J'ai rêvé d'une très belle 203 qu'il y avait dans la rue et j'ai été, mais alors j'aurais pu rester en extase devant une Floride Transfluide avec le très beau logo Transfluide parce que le mot me paraissait absolument magique. Quoi. Je dis Transfluide. Et je voyais déjà ça comme quelqu'un qui voguait sur les flots, enfin bon bref. Et elle était, je crois qu'elle était bicolore, enfin elle était garée sur le... Elle m'a fait arriver en retard à l'école pas mal de fois, cette voiture, parce que je regardais à l'intérieur. J'ai toujours regardé, les mômes faisaient ça à l'époque, ils regardaient jusqu'où va le compteur. Quand on trouvait un compteur à 150, on était fiers, parce que ça c'était de la bagnole, ça c'était costaud. Donc moi, j'ai vécu dans ce... Dans ce monde-là, le monde des voitures, sans avoir le permis. Et je peux même dire que je conseillerais même pas à ce garçon de dire qu'ils n'ont pas le permis, parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où vous êtes raccompagné par une femme qui a le permis. Et ça, je suis désolé de vous le dire, mais c'est quand même un avantage concurrentiel extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est très drôle, mais c'est absolument vrai. C'est-à-dire que j'étais le pauvre gars, une soirée, quand j'étais prof syndicat, il fallait que je rentre. On va te ramener, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose de... Et aujourd'hui, en plus, moi, mes sœurs qui étaient plus jeunes que moi, elles, dès qu'elles ont eu le permis, elles ont eu une voiture. C'est-à-dire, c'est l'époque où... parce que c'était la liberté pour des filles, la voiture. Et donc, elles ont eu R8 et Simca 1000, quoi. Elle conduisait ça et elle conduisait vraiment très très bien. Donc j'ai beaucoup été conduit ici par mes sœurs, mais tout le monde trouvait que c'était une de mes singularités et ça ne posait pas de problème. Et on a eu même, il y a des moments comme ça, des grands moments. C'est le moment où justement, il y avait un moment douloureux, c'est le jour où mon père a revendu la traction à un ferrailleur ou un casseur. Il est venu la chercher avec son palan, tout ça, de la cité, parce que on allait et il allait avoir pour la première fois une voiture neuve. Il avait acheté une voiture neuve. Ce qui, dans les années 60, était un signe de ça va mieux. On était dans les 30 glorieuses et il fallait un petit peu afficher ce qu'il en était de la réussite relative. Hein. On était dans notre HLM, notre F5. Mais le jour où on a garé, où mon père a garé son Aronde, son étoile 6 plus exactement, couleur, tout le monde, on avait tous, il avait mis les catalogues sur la table et on était tous là à chercher la couleur. Il y avait des tas de divergences et puis tout à coup le mot ivoire est apparu. Ah, oui. Couleur ivoire. Alors là on a dit c'est ça qu'il nous faut. Donc on a eu une.
On a eu une étoile. Consensus.
Ah ouais, ouais, couleur ivoire. Et t'avais, c'est ça qu'il faut imaginer. Tout le monde aux fenêtres dans la cité parce qu'elle était belle, elle était neuve et les gens venaient voir ça. Mais je me rappelle que mon frère Guy, lui, avait acheté une étoile 6, super, mais c'était plus mieux. C'est le fils qui veut faire plus mieux que son père. Et donc, il avait acheté après une étoile 6. Et après, il y a eu un autre grand moment de voiture neuve. C'est quand mon frère Serge, tous et son chaudronnier chez moi, il était chaudronnier, et le jour où il a acheté une 24 CT. La 24 CT, je trouvais ça absolument...
Noir, la magnifique, noir,
Moi, c'est une des voitures que j'ai le plus aimé, dans lesquelles j'ai le plus roulé, que j'ai conduite d'ailleurs. Oui, parce que j'en ai quand même conduit des voitures. J'ai conduit une Matra 530 et une 24 CT.
Ben voyons.
Oui, parce que mon père m'appelle, mon frangin m'appelle, il travaillait dans un atelier pas loin de chez nous. Il me dit, là, il faut que tu viennes chercher la voiture parce que là, je dois ramener une autre voiture. Bon, je t'expliquerai, viens, je rapplique, quoi. Et puis, quand il me dit ramener la voiture, je ne voyais pas ce que ça voulait dire, quoi. Dans la 24 CT. Je connaissais toute cette bagnole. Parce que c'est un très, très beau souvenir à 15 ans, en 1963. Donc, je me souviens, mon frère m'avait dit je vais en Suède avec un copain, on va en Suède voir où est le camp d'entraînement des Français en 58, quand ils avaient eu la Coupe du Monde et qu'ils ont fini troisième. Si tu as ton brevet, je t'emmène. Donc je passe le brevet planté à l'écrit. Ok, j'ai planté à l'écrit. J'avais l'oral à passer et je devais y aller avec ma petite mobilette et tout ça. Et puis un mec qui m'avait saboté le truc. Enfin, peu importe. J'étais complètement dépité le midi. En me disant bon, bah, c'est foutu et je suis là et je dis à mon frère, à mon frangin, j'ai pas eu l'écrit, je passe l'oral, c'est pas sûr que je l'ai. Je me souviens, alors ça m'a ému. Je dis ça fait rien, je t'emmène quand même. C'est un des plus beaux. Et ça m'a ému, encore mieux quand j'y pense. Et comme un gros con de gosse, je le savais. Je ne savais rien du tout. Oui. Et j'avais les jetons qui ne m'emmènent pas. Et donc, on a fait cette. On était à trois, on a fait cette. Ce Orly Paris.
L'expédition.
Stockholm. On est même monté jusqu'au Cap Nord, parce qu'on voulait aller au Cap Nord, tout là-haut. Un voyage absolument extraordinaire. Et je me souviens. Cette 24 CT qui était très récente, hein. Il n'y en avait pas sur les routes également. Et on était sur l'autoroute allemande, et tu avais les gars, des mecs avec des petites aînés Supremes qui crachaient, hein, qui passaient, qui nous faisaient des tas de signes, qui disaient, des signes avec le pouce pour dire c'est super, parce qu'elle avait une belle gueule, elle était blanche. Et j'adorais à l'intérieur, on était. Et donc je l'ai conduit donc entre l'atelier de où bossait mon frangin et la maison. Et une autre fois on était à Romorantin et mon frangin, bon, mes frangins, c'est les vacances, ils viennent, et mon frangin avait une Matra, avait acheté une Matra 530, que j'aimais beaucoup, cette caisse, c'était spécial. Et il part comme ça, il sort de là où on était chez des amis, et puis il s'arrête, et il me dit, vas-y, maintenant conduis là. Je dis, ah bon, conduis là. Et puis, donc, sur la route qui va à Selles-sur-Cher, j'y vais, quoi. Putain, à même pas 400 mètres, il y a la gendarmerie. Et alors, on est passé à l'aller, on est passé au retour. Alors, ça faisait des petites choses, si je m'arrête, je suis bon, là. Et donc, j'ai fait ce petit aller-retour de rien du tout, en battant 530, en rêvant que personne ne sorte de la gendarmerie. Ils ont de toute façon rien à faire de bois. Donc c'était des petites choses, mais qui sont de très bons souvenirs, parce que c'était avec mon frère Gérard. Pareil, ils étaient extrêmement... C'était pas quelque chose d'exceptionnel de prêter sa bagnole aux plus jeunes dans la famille, quoi. Mmh. Ils avaient tous fait ça, ils avaient tous conduit comme ça. Ils ont été élevés à la campagne. C'était, il n'y avait pas cette, en tout cas dans notre famille, et d'ailleurs pareil, comme quand mon père a prêté sa DS à mes sœurs, ça posait aucun problème. Elles étaient plus petites que moi, plus jeunes, et ils préféraient qu'elles prennent la DS pour aller, je sais pas, comme on faisait à cette époque-là, voir une exclue sur les Champs-Élysées à Paris, et ils préféraient qu'ils payent en voiture que de rentrer, de se faire ramener par quelqu'un, quoi. Mmh. Donc c'était une sécurité, quoi, une sécurité. Donc la voiture, elle a toujours eu chez nous ce statut. Mais je me souviens d'une autre bagnole que j'aimais beaucoup. Je suis allé en 1960. Mon père, qui faisait des travailleurs Air France, il faisait des périodes ou à Toulouse ou à Alger. Et un jour, il allait donc régulièrement à Alger, il nous ramenait des tas de trucs d'Algérie, des roses, des sables, des piments, des couvertures algériennes, enfin des trucs incroyables. C'était... Et un jour, il a dit, je vous emmène. Et donc, on est parti en vacances à Alger, à côté d'Alger, à Fort-de-l'Eau. Et à Fort-de-l'Eau, voilà, j'ai vécu peut-être les plus belles vacances de ma vie, parce que c'est l'Algérie, c'est beau, parce qu'en plus j'ai une petite gueule qui va très bien là-bas, ils me prennent tous pour un petit arabe, donc j'allais où je voulais, tous les cafés, la Kenya, tout ça, j'adorais ça. Et
j'avais quel âge?
J'avais 12 ans.
12 ans.
Et j'avais même, à cette époque-là, une espèce de fascination pour les tombolas avec les oiseaux, les bengalis, et j'allais voir un marchand comme ça, une tombola, tous les matins quand il installait les oiseaux. Puis à force que je vienne là tous les matins, il m'a dit, tu pourrais aider. Alors j'ai aidé un peu à nettoyer les caches, j'adorais ça. Puis après, il m'a fait vendre des tickets, les 5 pour 10 francs, 12 francs. Enfin, bon, je gueulais, après je l'ai fait dans le micro, tout ça, j'ai adoré ça. Et ce que j'adorais, on était dans un restaurant, ce que j'adorais, c'est quand on allait au marché de Maison Carrée pour faire les provisions pour le resto où on logeait, et on y allait en Juve A4, la Juve A4 commerciale. C'était une voiture aussi que j'aimais beaucoup, la Juve A4. Et alors, ce qui était dingue, c'est que la chose dont je me rappelle le plus, c'est que ce type, là, le gars qui m'emmenait au marché de Maison Carrée, où j'adorais ça, il y avait des petits mômes qui avaient mon âge, qui étaient porteurs d'eau. J'ai adoré cette ambiance-là. Et lui, il ouvrait la fenêtre quand on partait, et il crachait à peu près tous les moins de 100 mètres. Il crachait par la fenêtre. Et pour moi, c'est un souvenir qui est lié à la Juve A4, quoi. Donc c'est plein de... Moi, le rapport que j'ai à l'automobile est très, très affectif. Il faut que ça me rappelle quelque chose.
Je vois ça, ouais.
Et c'est vrai que reconnaître une voiture, j'en suis, même aujourd'hui, à être vexé quand je ne reconnais pas une voiture. Je traverse la rue, moi, n'importe où à Paris, je traverse et je vais voir, parce que comme il y a plus en plus de bagnoles et de marques maintenant, toutes les voitures chinoises, les voitures électriques, tout ça, c'est des trucs différents. Alors des fois, j'ai l'impression que je suis un peu paumé, donc je réajuste un petit peu mes connaissances. Mais parce que moi, je trouve un des trucs les plus incroyables, d'abord Barthes en a parlé dans les mythologies, ce que je trouve le plus incroyable, c'est comment, pour certaines lignes qu'on a trouvées quasiment révolutionnaires à une époque, on les revoit quelques années après, c'est ringard. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est que le style, les stylistes, les carrossiers, les Pininfarina et compagnie, ces gars-là, ils te font vieillir la modernité. C'est-à-dire que la modernité a vieilli jusqu'au moment où elle devient classique. C'est-à-dire qu'il y a des voitures qui ne vieilliront jamais. Elles sont là, quand je pense à Pininfarina, même à les cabriolets 204 qu'on a fait à une époque, qui ne sont pas grand-chose. Ben non, ça marche, ça passe. Je vois encore passer, là, je vois encore passer, en m'émerveillant plus qu'à l'époque, une deux chevaux, une vieille deux chevaux.
Tout à fait, ouais.
Je dis, mais mec, le mec a pensé ça. Quelle tronche, comment c'est gonflé là, les publicités.
Oui, c'est très fort, c'est pas comme une type par exemple, qui est vraiment exceptionnel.
Oui, voilà.
Ou certaines voitures qui ont des Ferrari. Même une deux chevaux, même une des premières 4L ou une Mehari.
Ça fonctionne. Bien sûr, parce que ça a de la gueule, comme on dit.
Et ça a de la personnalité.
Quand tu as de la gueule. Que tu sois un homme ou une femme, quand tu as de la gueule, quand tu vieillis, tu gardes de la gueule. c'est vrai. Donc, tout ça, ça m'intéresse parce que je lis un petit peu et quand j'ai vu même arriver les premiers espaces. Et là, c'était très particulier parce que comme on avait cette espèce de ruine à Romorantin, on était à côté de l'usine Matra où on fabriquait les espaces. Donc, moi, je me déplaçais avec mon petit vélo pour aller me mettre derrière le grillage et voir les bagnoles qu'ils alignaient, les nouveaux modèles à chaque fois. Et je me rappelle, parce que ça a été un moment un peu... Je me suis inquiété pour Matra et pour Romorantin, parce que le jour où ils ont, sur le parking, ils ont aligné les Avantimes. L'Avantime, c'est un coupé deux portes avec des portes insensées qui étaient censées relancer ou même remplacer l'espace, ou du moins en tout cas comme modèle, et qui était un flop terrible.
Ça s'est vendu une misère, on les achetait pour une bouchée de pain l'année dernière.
Ah ouais, c'était...
C'est une très belle voiture, très bonne.
Oui, bien sûr, avec des portes qui sont insensées. Il y a eu des voitures comme ça qui ont impressionné aussi sur le moment et après. Comme la Fuego, parce qu'elle avait une lunette arrière énorme qui était assez spectaculaire. Des voitures comme ça, mais même les Matra 530 avec leurs trois places, ça n'a pas marché.
La Baguera,
ça n'a pas marché.
La Baguera, la Murena après.
Voilà. Ouais, donc ça, c'est des choses des fois qui fonctionnent pas, alors que moi, je suis aujourd'hui dans les voitures étrangères, les Mustangs, tout ça, ça me va, moi. Un gars qui a une Mustang blanche avec intérieur rouge, il a compris. Il faut que je paye tout ça, il faut qu'il. Mais c'est-à-dire, c'est des trucs comme ça, des voitures. Et puis aussi avec ce rondement. Moi, je me souviens, c'est bête, c'est peut-être le seul motoriste, Shelby, je me souviens, ce mec, ça paraissait un magicien, quoi. Il faisait des caisses insensées. Et il y a comme ça des voitures qui après les gens croient que c'est parce que tu l'as vu dans un film avec avec Steve McQueen, c'est parce que tout simplement tu es en adhésion avec le truc, tu te vois bien faire du cruising quoi. C'est-à-dire des bagnoles qui sont des monstres techniquement, dont tu rêves simplement de les conduire doucement.
Bien sûr.
tranquillement. Tranquillement, le long de je ne sais quelle mer, montagne, doucement, doucement. Et ça, moi, j'aime bien cette, sans dire force tranquille, parce que ça a été un peu trop usé, mais d'avoir en réserve tant de force et que ça se voit et que ça se sait que tu n'es pas obligé de l'utiliser. Tu n'es pas obligé de brutaliser ta voiture, brutaliser ta caisse pour faire le malin. Et parce que moi, je suis d'une époque, des années 60, où quand même... chaque feu rouge, c'était le départ du Mans, hein. Sauf qu'on ne courait pas, quoi. Mais je veux dire que tout le monde se faisait vroom-vroom pour... c'était une espèce de code, quoi. Alors, des fois, ça se finissait bien, ça se finissait pas bien. Mais il y avait beaucoup de provocations sur les routes, des gars qui avaient des caisses, qui arrivaient derrière toi, des trucs qu'on voit maintenant que dans les films d'horreur aujourd'hui, quoi. L'autre jour, on a regardé comme ça un film avec Madouce. qui contient les qui contient tous les archétypes de l'espèce d'angoisse que tu peux avoir quand tu roules la nuit seul et puis qu'il y a une voiture qui commence à te coller avec les phares et tout. Ça, c'est un archétype, c'est un peu impensif, mais ça fonctionne toujours quand tu sais bien faire ronfler le moteur, quand tu sais bien mettre les yeux dans le rétroviseur de la personne. Alors, tout ça, c'est parce qu'au cinéma, les voitures aussi ont une certaine importance. Je t'ai parlé de American Graffiti. Mmh. Et American Graffiti, c'est le film qui saisit peut-être le mieux justement le passage de la voiture plaisir du cruising à l'américaine, c'est-à-dire tous les samedis soirs, les mecs sortaient les caisses, remplissaient avec les copains, les copines, et faisaient l'allée centrale une fois, 10 fois, 100 fois. Bon. Parce qu'ils étaient au fin fond, au centre des États-Unis, qu'il n'y a pas de très grande ville loin. Et en même temps, tu as ces énormes bagnoles qui sont censées contenir. Et puis ces caisses, c'était quand même sidérant de voir que les mômes, ils avaient le droit de conduire des caisses comme ça à 16 ans. Quoi. T'étais enfant, tu te dis, mais merde, c'est un gamin, il a un paquebot comme voiture. Donc ça, c'était un truc assez étonnant. Et là, c'est parce que c'est un très bon film, parce qu'il montre tout simplement la fin d'une époque, et pire que la fin d'une époque, la fin de ta jeunesse, quand tu es aux États-Unis dans ces années où tu as 18, 20 ans, et que ton avenir c'est la guerre du Vietnam, tu vois bien qu'il se passe quelque chose et qu'il se finit quelque chose. Et c'est à travers les bagnoles et à travers ces espèces de petits dragsters urbains. Qui faisait qu'on allait défier un tel, et il y avait une grande avenue où on se balançait à fond comme le font les dragsters, et que forcément il y en a un qui part dans le décor ou pas, et où des gars qui se... Et ça, c'est un film que j'aime, parce que bien sûr Bullitt il est très bon, en plus il a un bruit de moteur qui est formidable, mais il y a celui-là il montre encore autre chose, quoi. Voilà. Mais enfin bon, c'est beaucoup beaucoup de ça. L'automobile, moi, c'est une culture. Mmh, c'est une culture. Il y a des personnages. Si, bien sûr. Moi, j'habite Orly, et c'est le hasard statistique. Qui habite Orly en haut d'Orly? Jean-Pierre Beltoise. Jean-Pierre Beltoise. Nous, on passait avec nos vélos. Il y avait des caisses insensées là-haut en haut d'Orly. Le pavillon avec ce grand jardin qu'ils avaient. Donc on voyait sortir des monstres et on voyait un gars à la télévision qui était de là-haut. Donc Jean-Pierre Beltoise fait partie de ces gars qui disaient que c'était possible, quoi, au petit gars qui aimait faire ça avec les bagnoles, quoi. Et donc, c'est pas bien que tu sois à Orly, dans une cité, c'était possible, quoi.
Alors, tu me parles de Beltoise, de Romorantin-Lanthenay, de Matra, ça c'est ma passion. J'ai visité récemment Le musée Matra, et j'étais mais comme un môme, tu vois, de pouvoir toucher les 630, même si c'est bien sûr interdit, mais c'est pas possible de résister, c'est une attraction même magnétique, enfin, ouais, ouais. C'est impossible. Et de voir la Formule 1 avec laquelle Stewart est devenu champion du monde, de voir toute la saga des Renault Espace, ouais. Puisque c'est très bien montré dans ce musée-là, elles sont toutes recensées là. Tu me disais que tu avais quand même vu aussi passer sur des plateaux, des remorques, toutes ces voitures de course.
Oui.
C'est quelque chose qui, moi, me parle, parce que c'est ma culture automobile, elle s'est forgée dans ces années 70, tu vois, où Matra gagnait le Mans, 72, 113, 72, 113, 74, où le mythe de Pescarolo,
oui,
ce gars au casque vert, enfin, c'est magique. Beltoise, évidemment, Jean-Pierre Jabouille. Et tous ces pilotes français qui ont fait ma culture de l'automobile, moi. Et donc, quand tu me dis que tu as vu, toi, ces voitures qui roulaient à l'époque, en vrai, là, je me dis, je suis à une main du paradis, quoi, tu vois.
Oui, mais ce qui est bien dans les époques, c'est qu'on ne sait pas qu'elles sont extraordinaires. On le sait, on le sent, mais on ne sait pas ce que ça va produire plus tard. Matra, ça a produit aussi la nostalgie. Ça produit un temps où l'industrie française de la course était bon. Maintenant, il y a eu le Mittalpine aussi, qui était le côté rallye, quoi.
Oui, avec Andrué, Darniche et tous ces pilotes extraordinaires.
Et puis rallye Monte Carlo.
Ragnotti.
Ragnotti, ça des mecs comme ça. Ça faisait des images insensées à la télé. C'est les premières. Maintenant, t'as l'impression que tu les vois s'envoler tout le temps, que t'es dedans et tout. Mais à l'époque, tu suivais les courbes. Et le Tour de Corse, par exemple, ou
Monte-Carlo,
c'était des trucs que tu suivais. Parce que c'était. Parce que les noms de gars. Si, il y a quand même une voiture mythique qui est pour moi l'AR8 Gordini. L'AR8 Gordini, c'était le Graal. Pour tous les gars qui n'avaient pas beaucoup de ronds et qui voulaient un truc qui crache. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont peint des bandes blanches sur des voitures qui n'étaient pas Gordini. Hein. Ils ont pensé qu'avec les bandes, le mec allait. Mais, et d'ailleurs, dans la culture, la Golf GTI aussi a fait faire un saut. C'est-à-dire, elle a rendu accessible une voiture qui crachait quand même. Hein. Voilà. Donc.
Et l'R5 Turbo aussi, plus dangereuse, il y a eu beaucoup d'accidents avec l'R5 Turbo, ça a été très vite une voiture maudite.
Oui, bien
sûr. Mais qui a été mythique, qui a quand même fait aussi, qui était une voiture exceptionnelle.
Donc, et qui a rendu accessible, pas trop cher, il y a plein de gars qui l'ont un peu customisé, qui l'ont un peu arrangé, qui ont fait des rallyes avec. Et aujourd'hui, et c'est ça qui est formidable, il y a beaucoup de courses de vieilles voitures, qu'on appelle les voitures, mais qui sont des courses de GTI.
Des Youngtimers, ces voitures qui ont 20 ans, quoi.
Voilà,
et 20 ans, 30 ans, et beaucoup de 205.
Oui, bien sûr, la 205 GTI a été également une caisse qui, j'allais dire, rendait plus populaire l'accès à la course automobile. Et ça, c'était plutôt bien, quoi. Mais bon, moi, j'ai suivi ça, et aujourd'hui, quand je vois il y avait des images sur le Mans, je vois des monstres, des noms qui roulent, c'est des engins qui me disent rien, parce que, d'abord, j'ai le sentiment qu'elles se ressemblent un peu, voilà, et que vraiment, ça nécessite une économie derrière, un pognon, quoi, si je puis dire, énorme pour. Alors que j'avais pas l'impression que c'était. Que c'était comme ça avant Le Mans, quoi, tout simplement. Mais Le Mans aussi, c'était un truc qui était un souvenir de c'est qu'on on se dit pas, mais à cette époque-là, beaucoup de gars y allaient en moto au Mans, et au retour, ça faisait mal, hein, parce que ça crachait, tout ça.
Ça excite.
Le fameux hôpital, je ne me rappelle plus, où un pote s'est retrouvé. Parce que ça devenait, et pour le bol d'or, c'est encore pire. Et je me rappelle d'un copain qui s'était craché comme ça dans un espèce de chute de groupe, de mec qui a stické un petit peu, parce que quand tu as vu des mecs tourner à cette vitesse-là, etc., Donc ça, ça a été un... Je me rappelle, il avait une Ducati, enfin bon, t'as des trucs, les motos, c'était, moi j'ai un frangin qui s'est viandé, mais c'était avec une 175 Peugeot, 175, après, mmh. Que je trouvais belle, noire et blanche, tout ça, et il s'est bousillé, il s'est retrouvé avec un bras avec une broche.
Parce que, en plus,
comme on dormait, on avait une petite maison, on dormait à deux et la mère disait tu bouges pas hein, parce que y a ton frère avec sa broche. C'est des accidents de voiture, il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a eu. J'ai un petit neveu, tout petit, un enfant, mon frère Michel, sa femme. Et ils avaient un bébé et un truc aujourd'hui, tu le verrais au cinéma, tu hurles, tu sors de la salle, où la maman, elle a son gosse dans les bras. Il a freiné pile ou quelqu'un là, et le gosse a simplement tapé son front sur le tableau de bord et mort.
Voilà.
C'est une histoire de il avait simplement un bleu au front. Et ça, c'est aussi un drame dans notre famille qui, parce que c'est même aujourd'hui, c'est très 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 difficile d'imaginer que des gens se battaient contre la ceinture de sécurité. Moi, je me rappelle, et du casque, je me rappelle Monsieur Montelet, qui était le mec de chez Motobécane et tout ça, qui à la télévision disait qu'il était contre le port du casque, que ça dénaturait le fait de... ça faisait baisser les ventes et ça faisait... ça contredisait l'espèce d'image, l'image cheveux au vent, avec les... Tout ça, c'était... Ça c'est après quand on réfléchit, mais même sur le moment, les gars... Moi, j'avais un pote que j'adorais, qui était un dingue, absolu de bagnole, qui s'est acheté je ne sais plus quelle escorte en deux couleurs, lui et son frangin, ils mettaient la ceinture de sécurité comme ça et ils ne l'attachaient pas. Comme s'ils étaient en train de faire un acte quasi révolutionnaire ou libertaire. Même si, à l'époque, on peut dire qu'attacher sa ceinture de sécurité, c'était tout un bordel pour le mettre correctement. Mais toutes ces étapes-là, moi, m'éclairait sur la société, quoi, la façon dont elle réagissait, comment le mythe de l'automobile pouvait complètement faire des conneries, quoi, que ce soit en vitesse, que ce soit en sécurité, Mais tout ça, c'est des choses que j'intègre comme étant, pour moi, d'une culture populaire, parce que c'est une culture populaire, mais bon, si les vieux avaient eu plus de fric, il y aurait peut-être d'autres références d'automobiles. parce que quand on était beau, et j'ai une photo, je ne l'ai pas ici. Nous, on se faisait jamais photographier devant notre maison, tellement elle était pourrie, et on se faisait photographier devant la Versailles des voisins qui étaient charcutiers, M. Gnobel. Et donc, on a plein de photos où on est, les quatre picoulis, comme on disait, devant une Versailles.
Ah bah écoute, je t'ai photographié devant la 1800. J'aurai un plaisir à la montrer à nos auditeurs. On arrive à une quarantaine de minutes d'entretien.
Il est bavard, d'accord.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a rien, c'est pas une question de bavard, c'est qu'il n'y a rien à couper. Il n'y a rien à couper. Alors, dans tes souvenirs heureux, ce que je retiens, c'est celui de la 24CT, du voyage avec ton frère. Il y a d'autres, tu aurais d'autres souvenirs heureux comme ça de l'automobile pour conclure ou...
Les souvenirs heureux et qui sont des images que tout le monde a connues dans les mariages, c'était dans les mariages populaires, comme ça, il y avait le départ des jeunes mariés en voiture, le départ des jeunes mariés après le bal, le gâteau, le truc, tout le mariage allait après manger la soupe à l'oignon, tout ça, bon voilà. Il y avait des rituels comme ça que j'aimais bien. Deux choses. Deux souvenirs reliés à ça, c'est grand départ, quand on est une grande famille, voilà, du monde et tout, bon, Le truc le plus simple, c'était qu'il partait et il y avait toute la batterie de cuisine qui était accrochée
à l'américaine.
Et à l'américaine. Et là, le truc un tout petit peu plus subtil entre bricolos, c'est voilà, le mari pendant la voiture, ça part pas. Et je me rappelle de celui qui sera mon frère qui sortait. Le doigt de Delco. Vous n'allez quand même pas me faire le coup du doigt de Delco le jour de mon mariage. Et le mec, lui rend le doigt de Delco qui empêchait le débarrage. Le doigt de Delco. Je m'en souviens, mais ça, j'étais bon. Hein. Je me souviens de
la blague.
Mais c'est surtout le gars que ça.
Pas aujourd'hui.
Voilà. Vous n'allez pas me faire le coup du doigt de Delco à moi, quand même, les gars, à moi. Et hop, il se barre. Et ça, c'est parce aussi. Je trouvais, c'est de ce que j'ai gardé de la culture de ma famille, c'est qu'il y avait quand même un gros respect pour le boulot et pour ce que les gens savaient faire. Et je vais te raconter une dernière anecdote, parce que je l'ai mis dans un bouquin. C'est que souvent, on faisait le monteur, quoi, c'est-à-dire quand il y avait petite jupe, une culasse, tout ça. Je me rappelle d'une fois, et je me rappelle même d'une fois comment on avait été dépanné par des motards, à la porte des motards, les motards de la police, quoi, et qui étaient allés chercher la pièce, et c'était en fait un joint, quoi. Et on avait réparé, on était reparti. Je me souviens d'ailleurs de ce terme que j'aimais beaucoup, quand mon père, il disait, il avait pété le joint de culasse, il montrait la culasse, il y avait un espèce de petit décrochement, et il était allé faire surfacer la culasse. Culasse et il m'avait remontré comme ça après comment c'était lisse. Mais en même temps, tu ajoutais de la compression en fait, hein, quand tu surfaces la culasse. Et un jour, et donc, en mobilisation générale, le père, les frangins pour déposer le moteur et remonter le moteur de la traction. Ouais. Et donc, ils font ça, ils déposent le moteur, on est dans la nuit, ma mère, ma gueule, tout ça, puisque voilà, ils sont là avec lampe électrique, il fait nuit, ils continuent, on ne peut pas arrêter, ça ne s'arrête pas, on ne peut pas arrêter, faut savoir s'il marche le moteur. Et alors, pour savoir s'il marche le moteur de la traction, il l'accroche à la branche du cerisier, on avait un cerisier, une grosse branche comme ça, il l'accroche pour vérifier comment les choses. Fonctionne même mécaniquement déjà. Mm-hmm. Et après, il y a un des frangins qui dit « Ouais, mais d'accord, mais il faut qu'on le fasse tourner, parce que si ça merde, après, on va être embêté. » Et alors mon père ou un frangin, ou je ne sais pas qui, va tirer un verre d'essence et le met dans... Bon. Et il le lance, et le moteur part. Mais échappement libre, hein. On était quasiment en pleine nuit dans le quartier. Ils ont cru que c'était la guerre, les gens. Échappement libre, ça part en sucette, et les gens se sortent, et puis ils demandent ce qu'il y a. Et un mec dit bêtement, mais arrêtez-le. Il fait, mais non, on ne peut pas l'arrêter. On a mis un verre d'essence dans le truc, on ne peut pas l'arrêter. Et donc, on a dû attendre que ça va... Et que le quartier retrouve son calme, et ce moteur de traction accroché au cerisier, c'est un souvenir phénoménal, parce que ça a mis tout le monde dehors, et en fin de compte, après avoir gueulé, on a bu un coup, et peut-être à 1h, 2h, je sais pas, du matin, tu avais le quartier qui était, ou la rue au minimum, qui était en fait, grâce à ce petit verre d'essence qui voulait durer. Voilà.
Quelle chute autour d'un verre, tout se passe bien.
Oui.
Vous l'avez compris, avec Daniel Picouli, quand c'est fini, ça n'est pas tout à fait terminé. Aussi, avons-nous le plaisir de l'écouter encore quelques minutes, nous parler de transmission, encore une fois, des choses que son père a pu lui transmettre comme expérience, comme modèle, qui lui servent pour son écriture de tous les jours.
Si tu tout vérifies, tu retrouves un boulon.
Ah, c'est le syndrome Ikea, ça.
Tu retrouves un boulon. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, il manque un boulon. Moi, j'étais bon, j'en avais marre. Je fous le boulon dans le coin, et je mets un petit coup. Là, mon père, il m'a attrapé, et il m'a expliqué, mais tu vois, là, ce boulon-là, si on ne le retrouve pas d'où il vient et tout ça, là, le moteur, on peut être à plein tube, il peut exploser, puis nous, on finit dans la platane. Quoi. Et je me rappelle de ça. frangin qui était là, tout, et il fait, bon, allez, et ben, on remonte tout, on redémonte tout. Mmh. Et c'était une leçon, quoi. C'était,
oui, parce que c'est une métaphore de plein de choses, ça.
Ah oui, bah, oui, ça, je l'ai mis, moi, j'ai aussi mis, parce que c'est... Et ça, c'est, tu glisses un truc sur le tapis, et un jour, tu le reprends dans la gueule, quoi. C'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, parce que moi, je le dis, j'ai appris à écrire en regardant mon père soit bricoler le moteur, soit poncer son aile de voiture. Quand il faut poncer, mastic, poncer. Et quand ton père te dit, bah, continue, depuis là.
C'est déjà parfait,
que,
c'est fait, non
c'est pas doux, quand ouais, c'est ouais. pas doux sous la main, et tu dis à ton père, ça y est, c'est doux. Et que le vieux, il sort la baladeuse, il te met un coup de lumière rasante, t'as tout de suite compris qu'il en manque, quoi. Donc c'était des choses, et j'ai dit, voilà, je le dis beaucoup, je le dis par rapport à l'écriture, il faut avoir dans son entourage une baladeuse, quelqu'un qui regarde votre texte, qui vous met un coup de lumière rasante et vous en prenez plein la tronche. C'est une métaphore de l'écriture, pareil. Vous croyez que vous avez fait doux, que les phrases sont douces, et si vous avez un regard extérieur, vous allez vous apercevoir que c'est pas comme ça. Et dans la vie, il faut avoir un regard extérieur. C'est aussi simple que ça. Voilà.
Merci.